Bonjour, merci à tous d'être ici aujourd'hui dans cette fameuse librairie Mola. Moi, j'en entendais tout le temps parler de cette fameuse librairie Mola qui va avoir 120 ans. C'est vraiment un plaisir d'être ici, d'avoir fait le voyage depuis Paris pour découvrir cet endroit et puis surtout pour accompagner Ivan Illich, que vous connaissez certainement bien et que les Bordelais connaissent bien, qu'on connaît bien aussi à Radio France et qu'on connaît bien sur France Musique, puisqu'on le suit et on le soutient. Et on soutiendra ce disque consacré à un compositeur américain, compositeur du XXe siècle, Morton Feldman. C'est un personnage assez fascinant dont on va parler aujourd'hui ensemble. Ivan va jouer, mais on va aussi parler pour que vous puissiez rentrer dans cette musique, pour que vous puissiez comprendre ce compositeur. Ce qu'on va entendre vraiment va résonner très fort. Vous voyez, par rapport à cette pièce qu'a enregistrée Ivan, qui s'intitule For Bonita Marcus, eh bien, en fait, Feldman écrit à propos de cette pièce ceci: l'œuvre que j'ai dédiée à Bonita Marcus, si je peux me dévoiler un peu, avait à voir avec la mort de ma mère et l'idée générale de la persistance d'une personne. Je ne voulais pas que l'œuvre meure. Voilà, je pense qu'on peut penser à ça en écoutant Ivan. Vous pouvez aussi le prendre comme une musique lente, une musique planante. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser emporter dans un monde, vous laisser guider tout simplement par la musique. Ivan Illich, on l'applaudit pour cet extrait de For Bonita Marcus. Ça va, Ivan?
Oui, difficile de sortir de cette musique. J'ai du mal à... Une fois que je rentre dans la transe, ça fait partie du jeu, à la fois pour le public comme pour moi-même. J'essaie de rentrer dans un état très différent d'un concert habituel. Et d'habitude, ça perdure, justement. Justement, la pièce, elle dure 70 minutes. Donc, une fois qu'on rentre dedans, on ne ressort plus et on n'a pas envie de ressortir. Et plus la pièce perdure, et moins on a envie de sortir. Donc là, déjà, après 10 minutes, j'ai vraiment beaucoup de mal.
C'est quoi cette transe exactement? Comment vous pourriez nous la décrire?
C'est un état dans lequel on a une attention toute particulière, que ce soit pour le geste, pour le son, pour ce qui se passe dans le public, pour l'écoute notamment. Donc c'est comme un état d'éveil extrême, tout simplement. Donc moi, je pense que ce que Feldman arrive à faire dans sa musique, dans l'idéal, c'est de faire la magie qu'on ressent de temps en temps dans un concert habituel, sauf qu'il le fait durer très très longtemps. Donc ce sont des moments justement où on voit qu'il y a une note qui va arriver et on voit le pianiste qui va toucher la note. Et puis on a tout le temps d'anticiper et puis de ressentir de façon très forte tout le raffinement dans l'idéal, hein, ou la nuance de ce qui va être posé, comme si on posait une toute petite pierre à un endroit et puis à un autre. Et c'est une sensation très très agréable. Mais après, forcément, c'est une musique abstraite, donc il y a aussi l'inquiétude de la part de l'interprète. Est-ce que le public est avec nous? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils se sont laissés aller? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils pensent à autre chose? S'ils n'arrivent pas à pénétrer la musique, évidemment, ça fait très très peur aussi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première sensation, justement, quand vous avez écouté pour la première fois de la musique de Feldman?
Non, par contre, puisque je l'ai écouté il y a des années aux États-Unis quand j'étais à la fac, sans doute, je l'ai découvert à ce moment-là, mais par contre, quand j'ai commencé à vraiment me plonger dedans, je me rappelle très très bien d'avoir, par exemple, allumé mon ordinateur avec un beau casque, puis j'ai cherché des morceaux sur YouTube. Il y a des morceaux très très longs, il y a un quatuor à cordes qui dure 6 heures, mais déjà il y a un trio qui dure 1 heure et demie, et je me rappelle très bien avoir allumé l'ordinateur, avoir mis le morceau, et puis m'être réveillé 1 heure et demie plus tard, comme si il s'est passé 5 minutes. C'était absolument incroyable. Sauf qu'évidemment, je m'étais transformé entre-temps. J'étais beaucoup plus calme, c'était comme si j'avais fait une méditation. Sauf que c'est une méditation dirigée, en fait. Ce n'est pas moi qui la contrôlais, mais grâce au son, je me suis laissé complètement pénétrer par la musique. Et j'avais envie non seulement de revivre cette expérience, mais de la faire vivre aux autres.
Mais vous nous parlez de quelque chose de très physique, au fond, de
ouais.
Sensations physiques.
Tout à fait, oui.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus, je sais pas, un petit peu plus précisément, physiquement, ce que ça vous fait?
Oui, au départ, quand on joue en tout cas cette musique, il y a une tension extrême parce qu'on joue tellement peu de notes et puis c'est noté de façon extrêmement précise. Donc pour avoir la rigueur nécessaire pour la jouer telle qu'elle est décrite sur la partition, ce qui est rarement le cas, malheureusement, dans les enregistrements que j'ai entendus, les gens font un peu tout et n'importe quoi. Ils se laissent aller complètement, ce qui n'est pas non plus le bon équilibre. Mais par contre, il y a à un moment donné, on commence à se perdre, c'est-à-dire... de se perdre dans la musique, d'être concentré uniquement sur la sensation dans l'instant présent. Et c'est quelque chose qui est assez rare à la fois pour l'audience et aussi pour les écouteurs et aussi pour le musicien, parce que d'habitude, on anticipe en permanence ce qui va se passer. Donc je pense que les mélomanes avertis, même, ils connaissent des morceaux qu'ils vont écouter et ils attendent la mélodie qui leur plaît. Et du coup, ils vont attendre ce moment fort pour lequel ils sont au concert. Et pour les musiciens, c'est un peu pareil. Par exemple, si je joue des œuvres de Chopin ou Scriabine, ce qui m'arrive assez souvent, je vais toujours penser à la suite. Ou alors je vais me dire, ah, attention, il y a le moment difficile qui arrive, il faut ralentir, ou il ne faut pas presser, ou il faut rester zen. Tandis que là, il n'y a plus celui qui dirige le musicien, le coach en quelque sorte, et celui qui joue, tout se fond. Et on devient une personne qui fait tout, et en même temps qui ne contrôle rien. Donc c'est très très étonnant comme sensation. Et puis évidemment, il y a les vibrations du piano. Là, vous avez sans doute réalisé que je joue les notes et puis j'écoute, je ferme les yeux souvent, je m'imprègne complètement. J'ai envie de les sentir, j'ai envie de sentir les vibrations sur le plan physique et aussi d'écouter dans la salle jusqu'à quel moment est-ce qu'on entend les vibrations. Parce que par rapport à cela, je vais juger est-ce que j'avance plus vite ou au contraire, par exemple dans une salle ici, on entend longtemps les vibrations, je vais profiter beaucoup plus longtemps, je vais me laisser attendre.
Mais tout ça en ayant une structure très rigide de la composition.
Oui, 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 parce que finalement, ce qui fait la différence entre les grandes interprètes et les autres, c'est qu'ils savent, c'est une question de timing, quoi. C'est eux qui créent la magie dans la salle et qui savent qu'ils peuvent attendre des demi-secondes de plus Et ça fait toute la différence.
Une question de respiration, alors, peut-être.
Oui, exactement. Bah, justement, ça, c'était un grand sujet pour Feldman. Il disait qu'il ne fallait pas compter, mais respirer. Donc, dans ce silence, justement, très long, moi, avant, j'ai compté 1, 2, 3, 4, jusqu'à 16. Et ça dure pendant une heure et demie. Alors, ça en devient presque insupportable. Je deviens comme un robot. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais mémoriser la sensation d'un silence d'une telle durée. Et puis, juste faire comme ça, et c'était la juste respiration, le juste durée, ce qui est très étonnant, quoi, parce que c'est à la fois précis et à la fois quelque chose de beaucoup plus naturel que si on compte, si on attend, quoi, parce que si on attend, c'est comme si on attend un train qui va arriver. Bon, il est 13h37, le train arrive à 41, donc je suis là, je regarde ma montre, et il arrive quand, le train? Et il y a ce stress, en fait, tandis que là, c'est pas du tout ça. J'attends, mais j'écoute, je profite. Donc, évidemment, si ça se trouve, c'est un peu moins précis que si je comptais, mais il y a une autre magie qui s'instaure, à la fois pour moi et pour le public.
Là, ce n'était pas un train, c'était le tramway qui venait.
Voilà, exactement. Justement, c'est drôle parce que ça se mélange assez bien, je trouve.
Mais oui, moi aussi, je me suis dit, bah, on pourrait inventer quelque chose.
Oui, une nouvelle version pour tram et piano.
Exactement. Vous êtes très attaché, Ivan Illich, à l'image. On peut voir sur Internet beaucoup de vidéos d'Ivan et notamment des clips qui sont très bien faits, vraiment léchés. Je ne sais pas avec qui vous travaillez exactement, mais c'est très beau. Et je me demandais, vous qui avez un rapport à l'image assez fort, ce que vous pouviez voir intérieurement en jouant cette œuvre.
Bah, c'est très étonnant, justement, ce lien au visuel qui existe avec Feldman. On a remarqué, moi j'ai participé à un workshop dans l'École des Beaux-Arts à Genève il y a 2 ans. Et à l'issue de ce travail, il y a eu une publication, donc un livre d'art en collaboration avec les artistes. Et ce qui est drôle, c'est qu'eux, tout de suite, ils collaient la musique de Feldman sur des images très, très différentes. Et ça marchait toujours très, très bien, parce que c'est une musique cinématographique. En fait, les gens, quand ils entendent cette musique, ils imaginent tout de suite des paysages, des ambiances, une météo très, très précise. Mais ce qui est intéressant, alors moi, j'ai fait l'expérience, j'ai envoyé des mails avec une espèce d'écoute à l'aveugle à plein de gens qui ne sont pas musiciens. Et je leur ai donné un extrait de Feldman, 3 minutes, sans leur dire ce que c'était. Et je leur ai posé des questions. Alors, quand vous écoutez cette musique, vous imaginez que vous êtes où? Qu'est-ce que vous voyez? Si c'est un film, un scénario, c'est qui le personnage principal? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fois, les gens ont des idées extrêmement précises sur ce qu'ils voient, et à la fois, c'est très différent d'une personne à l'autre.
Ouais.
Donc, moi, j'avoue que quand je joue cette musique, je suis plutôt focalisé sur le son. Je ne me laisse pas aller avec des images fantasques, ni des rêves chimériques. Je suis plutôt concentré sur à la fois de vivre l'instant présent musicalement et puis de transmettre quelque chose au public. Par contre, quand j'écoute des œuvres, je me laisse aller comme les autres, quoi. C'est incroyable, c'est de la science-fiction en musique. En fait,
est-ce que c'est une règle d'interprétation, que ce soit avec Feldman ou avec Debussy ou avec Chopin, que vous vous donnez, celle de ne pas vous créer d'images mentalement pendant que vous jouez, mais plutôt de réfléchir au son?
Oui, je pense que nous, en tant que techniciens de son, on est plutôt focalisés pour la plupart sur des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que la pire chose qui peut arriver à un musicien quand il joue une musique, c'est de se perdre. Et justement, s'il se perd complètement, là, avec cette musique, c'est agréable parce que je peux me perdre, mais en même temps, je suis très focalisé sur ce qui suit. Donc, ça me tient, en fait, ça me maintient en ordre. Tandis que si je me laisse complètement aller, là, les bras, les mains font ce qu'elles veulent. Et puis, parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien du tout.
Oui, surtout très... avec cette notion ici, on le sent du temps qui se distend, qui se tord et qui a un rapport justement avec la mort. Je le disais avant qu'on vous écoute, ça résonne particulièrement aujourd'hui. Et il n'y a pas de doute, il faut continuer à faire de la musique, même dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui.
Oui, j'en suis persuadé. Et puis, je me rappelle très clairement, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, entre 1993 et 2000, il y avait évidemment des bombes qui tombaient, notamment à Belgrade en 2000. Et ce n'est pas pour autant que les spectacles se sont arrêtés. Au contraire, les gens avaient besoin de beaucoup plus de concerts et de pièces de théâtre. Et les musiciens, les acteurs ont organisé spontanément beaucoup plus de représentations de ce qui était déjà prévu, justement pour alimenter la sensation d'humanité qu'on a tendance à perdre dans ces moments-là.
Et alors, on va continuer à vous écouter tout de suite avec un autre extrait. C'est Feldman à nouveau. C'est un extrait un petit peu plus court. Thank you. Et voilà, à nouveau, Feldman, Ivan Illich. J'étais en train de relire John Cage, qui était un très bon ami. Ils étaient très amis hein, avec Feldman. John Cage était quand même bien plus connu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe.
Absolument, mais... oui.
Dit, la musique de Feldman est très belle et elle change à chaque nouvelle pièce. Parmi les compositeurs ici, il est devenu mon meilleur ami. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun dans leur musique?
Ça dépend des périodes. C'est-à-dire que John Cage avait 14 ans de plus de Feldman. Pour Morton Feldman, John Cage était la rencontre artistique la plus importante de sa vie. C'est-à-dire que Feldman avait 24 ans. Il a rencontré Cage à un concert de la Symphonie de New York, à l'Intract. Et après, ils sont devenus assez rapidement amis. John lui a donné un cours à Morty. Et Morton lui a emmené son quatuor à cordes. Cage était très excité, il a regardé ce quatuor très atypique, il ne comprenait pas la construction de la pièce. Il lui a demandé, mais comment tu as fait pour composer ça? Et Feldman a répondu, j'ai aucune idée. Et là, Cage a commencé à rire et à sauter dans son appartement de joie, parce qu'il adorait l'idée qu'on pouvait composer sans savoir comment on a fait, composer par instinct.
Et, mais pas tout expliquer.
Oui, exactement. Pas avoir une théorie derrière la musique, pas avoir une raison d'avoir choisi telle et telle note. Au contraire, juste de se fier à son oreille, quoi, en tant que musicien. Et résultat, Feldman s'est fié à son instinct. Et c'était pour lui le choix déterminant de sa carrière. Parce que tout ce qu'il a fait, toutes les notes que vous écoutez quand je vous joue For Bonita Marcus, ce sont des notes que Feldman a choisies une par une en se fiant uniquement à son oreille. Donc c'est très, très étonnant comme démarche. Il y a très peu de compositeurs au XXe siècle ou d'artistes qui ont travaillé par instinct. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant en 2015, mais c'était très très mal vu au XXe siècle. Donc il était vraiment contre le courant de Boulez, de Stockhausen et tous les autres compositeurs beaucoup plus connus que lui. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand Feldman est mort d'un cancer de pancréas en 87, donc Cage était assez vieux déjà, il est né en 1912, donc ça fait quoi, 75 ans. Et jusqu'à la fin de la vie de Cage, donc encore 5 ans, il a commencé à composer une musique très lente, très douce, comme la musique de Feldman en fait, comme si il avait besoin de rendre hommage à son grand ami. Tandis qu'avant, la musique de Cage était assez violente, quoi. À partir de 1950 jusqu'à 87, la musique de Cage était percussive, assez difficile à écouter souvent. Et puis, il y a des pièces très, très épurées. Donc, je pense que l'influence entre les différents compositeurs est quelque chose qui est difficile à cerner, à définir. Mais c'est sûr que quand les gens sont aussi proches et se côtoient et suivent les uns les autres, il y a une influence qui se crée quand même, une émulation.
Alors on comprend donc qu'il composait d'instinct, ce qui est quelque chose de très rare, qu'il s'en foutait au fond des structures, qu'il envoyait balader tout ça. Il a rencontré Boulez à plusieurs reprises, enfin au moins une fois, mais ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire alors?
Ça c'est une très bonne question. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà dans les années, donc, je crois que c'était 1949, il y a Cage qui est passé un an à Paris. Il a maîtrisé le français beaucoup mieux que moi en un an, alors que moi je suis là depuis 15 ans, c'est très étonnant, je ne sais pas comment il a fait. Bref, et après il a suivi une correspondance entre Boulez et Cage où ils ont discuté de tous les amis et tous les gens qu'ils côtoyaient, et Boulez lui a envoyé quelques pièces de Feldman que Boulez a tout de suite cassé en disant que la structure n'était pas assez forte, etc.
Effectivement. Et,
oui, mais ce n'était pas du tout ce qu'il recherchait, mais justement ouais. Boulez détestait l'idée que quelqu'un puisse rechercher une alternative valable, ce qui était évidemment le cas avec Feldman, mais Feldman était jeune. Bref, il n'avait pas encore la réputation, donc Boulez profitait pour le casser. Après, Cage a invité Boulez à New York. Il a beaucoup fait pour Boulez, d'ailleurs. Il a fait publier sa deuxième sonate, notamment. Il a fait donner la création de la deuxième sonate de Boulez à New York par David Tudor. C'était des grands événements dans la carrière de Boulez, qui est par la suite devenu l'un des plus grands compositeurs, notamment français. Et après, ils se sont revus quelques années plus tard parce que Boulez, forcément, il est devenu connu à New York, donc il venait à New York une fois par an. Et l'histoire veut qu'ils se sont rencontrés dans un bar, le Cedar Tavern, qui était le bar le plus connu des expressionnistes abstraits. Et que, comme ils étaient les deux seuls musiciens dans ce bar, ils ont fermé le bar. C'est-à-dire qu'ils sont restés jusqu'à 6 heures du mat ensemble à discuter de plein de choses. Donc, finalement, ils se sont trouvés des choses à se dire. Alors, je pense qu'à un moment donné, entre deux personnes très ambitieuses, très fortes de caractère, il y a un respect qui s'instaure forcément. Parce que, évidemment, même s'ils ne sont pas d'accord sur tous les points, ce sont des pointures, quoi, chacun dans son domaine. Donc, et ce qui était très, très étonnant, notamment, ce qui m'a vraiment choqué, chez Boulez, c'est qu'il y a l'éditeur Universal, donc qui a publié Boulez, qui a publié Morton Feldman, qui a publié les plus grands compositeurs du XXe siècle. Et il y a quelqu'un qui travaillait pour eux qui s'appelait Tibor Vargas, qui est un Hongrois, un homme remarquable qui connaissait tous les compositeurs. Et il a publié un livre il y a quelques années qui s'appelle « Trois questions pour 65 compositeurs ». Et les questions sont très simples. L'une des questions, il demande à tous les compositeurs, est-ce que vous avez entendu une œuvre qui vous a bouleversé, qui vous a complètement changé les idées autour de la musique ? Et Boulez, tandis qu'il n'a jamais, dans une seule interview, parlé de Feldman, il a dit « Oui, moi en écoutant Feldman », une pièce, il a dit, je ne me rappelle pas lequel, alors que je suis sûr qu'il se rappelle très bien, mais il ne voulait pas dire, il ne voulait pas préciser laquelle. Il a dit, j'ai réalisé qu'on pouvait construire une musique de rien, avec des cellules qui pouvaient disparaître, qui arrivent sans raison, sans structure, et ça l'a énormément touché, en fait. Ouais, ouais. Et c'est quand même incroyable, vous avez Boulez qui dit que c'est la pièce qui l'a touché le plus parmi toutes les pièces de la musique contemporaine. Évidemment, après... Tibor Vargas a dit ça à Feldman. Feldman était sous le choc. Il n'arrivait pas à y croire. Il était content, mais je pense qu'il bafouillait. Il se disait, ça l'intéressait énormément. Il voulait en savoir plus. Donc,
on ne saura jamais vraiment, vraiment, non. Finalement, quels ont été leurs rapports. Est-ce qu'ils pensaient réellement l'un de l'autre ?
Oui, bien sûr. Mais justement, il faut lire entre les lignes dans ces cas-là. Oui. Parce que les choses, plutôt qu'ils laissent échapper, justement, dans ce genre d'exercice, dans les interviews, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des anecdotes qui sont beaucoup plus parlantes que ce que les gens disent puisqu'ils ont préparé dans leur dossier.
Il y a quelque chose aussi de très intéressant, j'aimerais bien que vous nous expliquiez et décriviez. Ce sont les partitions graphiques. Dans les années 50, c'est un des premiers compositeurs qui utilise les partitions graphiques, qui compose. Ça ressemble à quoi ? C'est quoi une partition graphique ?
Oui, c'est très étonnant. Donc l'histoire veut que Feldman était chez John Cage. On était en 1950-1951. John Cage était déjà obsédé par la nourriture bio, déjà à l'époque. Mm-hmm. Il adorait recueillir des champignons dans la forêt. Il se faisait un risotto, il faisait cuire du riz. Et en fait, comme c'était du riz complet, ça mettait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, d'une part, Cage était dans la cuisine en train de surveiller son riz complet, la cuisson. Et Feldman était dans la pièce et il est en train de griffonner sur des serviettes. Et il a eu l'idée d'avoir donc des partitions dans lesquelles on ne définit pas exactement les notes. On va dire que là, il y aura une note aiguë à peu près dans ce registre. Là, il y aura une note dans le registre moyen, après dans le grave. Et puis, il les rythme, bien évidemment. Mais par contre, il y avait donc une part d'ouverture vers l'interprète qui choisissait sur le moment les notes précises. Et c'était une idée tout à fait révolutionnaire.
Même temps, on revient presque au début de l'écriture musicale.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très approximatif, finalement, et que c'est la courbe, c'est la forme approximative qui compte plus que... Tandis que, évidemment, notamment dans l'après-guerre, les gens étaient tellement obsédés par la précision de tout. Ils voulaient Boulez, notamment, mais aussi Messiaen. Messiaen qui a écrit ce traité sur la musique où il est défini non seulement toutes les nuances possibles de notes mais de rythme. Il voulait en gros une espèce de taxidermie, je ne sais pas si on peut dire, taxidermie de la musique où on avait toutes les espèces classées les uns après les autres sur les étagères et on pouvait les choisir selon le moment. Et Feldman, c'était tout le contraire, il voulait laisser une espèce d'ouverture. Alors, ce qui est drôle avec les partitions graphiques, c'est qu'après, quand Feldman a confié ses partitions aux interprètes, il était finalement assez déçu, parce que les interprètes faisaient tout et n'importe quoi, et ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Et notamment, il a réalisé que ce qui lui manquait dans la musique, à ce moment-là, donc dans les années début 50, c'était le silence. Donc, c'est un silence qui est rempli de résonance, comme vous avez pu constater très facilement. Je joue des notes, et puis un silence, j'attends, on écoute la résonance ensemble, et puis ça continue après. Et c'est ça qui lui manquait. Et finalement, les interprètes, l'un des défis de l'interprète, c'est justement de se laisser aller dans ce silence, de respirer, ce qui est très très difficile pour les pianistes. C'est notoire, on est les pires. On veut surtout jouer le plus de notes possible dans le moins de temps. mais lui, c'est pas ce qu'il recherchait.
Mais on est presque, du coup, avec ces partitions graphiques, face à une œuvre d'art, face à de l'art plastique, et la peinture notamment faisait vraiment partie de sa vie et l'influençait.
Oui, tout à fait. Alors, Feldman était très influencé par les peintres qu'il connaissait. Il connaissait Jackson Pollock, Marc Rothko, Philip Guston, Franz Klein, Robert Rauschenberg. Il les connaissait tous. Il les a tous rencontrés grâce à John Cage quand il avait moins de 30 ans. Et après, il allait à ce fameux bar tous les soirs. Apparemment, il racontait qu'il travaillait jusqu'à 18h. Et puis après, ils se retrouvaient tous au bar jusqu'à 3h du matin.
Indispensable, les voilà. Bars dans la vie du
très important pour l'inspiration. Mais c'est surtout, je pense, que les artistes plastiques étaient beaucoup plus à l'aise avec les idées. Avec l'idée que les théories, qu'on pouvait faire des expériences, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait être expérimental, créer son propre langage, ne pas être forcément faire référence à d'autres personnes, mais être singulier, être individuel. Parce que ces peintres, Marthe Rothko, ne ressemblent pas du tout à Jackson Pollock, pour donner un exemple. Ça vraiment n'a rien à voir. Donc je pense que ça lui a donné confiance pour lui à créer une identité propre. Et après, pour le lien avec les arts plastiques, c'est drôle parce que Feldman, il mettait ses partitions sur le mur, il les clouait au mur, et puis il les regardait, et puis il les descendait, et puis il continuait à composer. Mais pour lui, l'équilibre visuel se traduisait en musique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des silences dans sa musique, c'est parce qu'il avait besoin de blanc. Parce que pour structurer n'importe quel tableau, il faut qu'il y ait le ciel, il faut qu'il y ait quelque part où il n'y a pas des objets. Il ne faut pas que ce soit rempli à craquer, sinon on ne voit plus rien. Mais lui, voilà, je pense que c'est le compromis qu'il a trouvé dans ses
C'est
partitions.
fascinant, et d'ailleurs, vous avez publié un ouvrage notamment autour de ces études graphiques. Enfin, on peut retrouver tout ça dans un ouvrage. Je vous regardais là dans l'extrait précédent que vous nous avez donné. J'avais l'impression que vous comptiez entre vos lèvres.
Oui.
Vous avez étudié les mathématiques, vous avez étudié à Berkeley, vous avez étudié les mathématiques. Est-ce que vous trouvez des rapports entre les mathématiques et cette musique?
Ben, c'est difficile à dire parce que comme Feldman a insisté tellement sur le fait qu'il n'y a pas de structure mathématique, même si on a une, on n'a pas envie de la chercher, on a envie de
Ouais.
faire confiance au compositeur. Et finalement, je dirais que la seule chose que je pourrais dire, c'est que en étudiant les mathématiques, ça fait en sorte que j'ai moins peur de ce genre de musique. Parce que sinon, c'est effrayant de devoir compter pendant 70 minutes, quoi. Ça, la plupart des musiciens, ils trouvaient ça insupportable. Tandis que moi, compter jusqu'à 16 ne me pose pas de problème. Après, c'est tout ce que j'ai fait.
Bon, on ne va pas vous écouter compter, on va vous écouter jouer. On va écouter la résonance de toutes ces notes parce que je crois que vous l'avez bien compris. Là aussi est l'intérêt, la résonance, la respiration. Et puis on va se laisser porter.
Thank you.
Ivan Illich. Eh bien, ce disque donc s'intitule Ivan Illich plays Morton Feldman. Je vais y arriver. Mais l'œuvre s'intitule en revanche For Bonita Marcus. Qui était Bonita Marcus?
Qui est Bonita Marcus? Parce qu'elle est encore en vie.
Effectivement, elle est en vie. Oui.
Donc, c'est une compositrice également. C'était la muse de Feldman. C'était la muse principale, si je puisse dire, parce qu'il y en avait plusieurs, beaucoup même. Mais c'était la rencontre la plus forte, sans doute, de sa vie. Il faut savoir que Feldman a travaillé dans l'entreprise de son oncle jusqu'à l'âge de 45 ans, très étonnant, dans une teinturerie. Et après, il a eu le poste de professeur à l'université de Buffalo. Donc Buffalo, c'est au nord de New York, c'est près de la frontière canadienne, près de Toronto. Et c'est un peu isolé, quoi. Et Feldman, enfin, il pouvait consacrer ses journées à la composition. Et à ce moment-là, il enseigne une fois par semaine à Buffalo. Il donne des séminaires très, très longs, de 8 heures. Et là, il rencontre Bonita Marcus et c'est le coup de foudre. Donc,
C'est un coup de foudre amoureux ou c'est un coup de foudre d'un professeur face à une étudiante qu'il trouve brillante?
Je crois que c'est les deux.
D'accord.
L'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Bah, effectivement.
Mais c'est très intéressant parce qu'après, il dit qu'il a beaucoup appris de Bonita Marcus et que c'était qu'elle lui a enseigné beaucoup sur la musique. Et elle, aujourd'hui, donc elle est encore en vie, elle prétend que cette pièce s'est beaucoup inspirée de sa musique à elle. Sauf que sa musique à elle n'est pas vraiment disponible. Donc, c'est difficile de vérifier si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, à partir du moment où ils se sont rencontrés, je crois que c'était en 76, jusqu'à la fin de la vie de Feldman en 87, ils sont restés presque inséparables. Même si Feldman a vécu d'autres histoires avec d'autres femmes, c'était une rencontre vraiment primordiale. Bonita Marcus avait 25 ans quand elle a rencontré Feldman. Et grâce à lui, elle avait accès à plein de festivals. Elle pouvait entamer une carrière de compositrice, ce qui n'était pas rien à l'époque, dans les années 70 quand même. Même aujourd'hui, les femmes ont du mal à concourir avec les hommes en composition, tandis que dans d'autres formes, que ce soit l'écriture, la littérature ou l'art contemporain, les femmes ont largement leur place, mais en musique, on est très, très conservateur.
On l'a même remarqué là, avec les prix littéraires, où il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des prix.
Voilà quelque chose qui n'arrivait jamais en musique, même en 2015. Et donc, je pense que cette pièce, en tout cas, a été dédiée à Bonita Marcus après sa composition. Donc, c'était encore l'époque où ils étaient très, très proches. C'était en 1985. Et moi, je suis assez cynique par rapport à Feldman parce que je pense que c'est quelqu'un qui était assez mégalomane, qui était très centré sur lui-même, très égoïste, comme beaucoup de génies, entre guillemets. Et je pense qu'il lui a dédié la pièce, il lui a offert le manuscrit. Elle a encore le manuscrit, d'ailleurs, que l'éditeur aimerait bien acheter, mais elle ne veut pas. De cette très très belle pièce, et c'était pour elle une surprise qu'il lui dédie cette pièce en fait. Et puis après, un an plus tard, la dernière pièce de Feldman que j'ai également enregistrée, qui s'appelle Palais de Marie, est une commande de Bonita Marcus. Elle a donné la création. Donc c'est, disons, moi je dis souvent, c'est un peu comme le Clara Schumann, la Clara Schumann de Robert Schumann. Ça c'est le personnage ou le rôle de Bonita Marcus dans la vie de Feldman. Elle lui a sans doute donné accès à certaines choses auxquelles il n'avait pas accès avant. Alors, les détails, on ne saura jamais.
On va dire s'amuse.
Oui.
C'est pas mal, s'amuse.
Pour faire court, oui, mais c'est très délicat parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé entre deux personnes, on ne saura jamais. Il y a une correspondance. Moi, j'étais en contact avec Bonita Marcus. J'ai essayé de l'interviewer par rapport à Feldman parce que parfois, elle fait allusion dans des forums publics qu'elle détient beaucoup d'informations qui pourraient être très intéressantes pour étudier l'œuvre de Feldman, sauf qu'elle ne les dévoile jamais. Donc, ça fait des années qu'elle dit ça, donc on commence à se demander est-ce qu'elle a vraiment des informations, elle dit ça juste pour se faire belle. Alors moi, j'ai essayé de l'interviewer, ça a dégénéré assez vite, elle est très très difficile, elle voulait se faire payer très cher pour l'interview. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes pour plein de raisons. Récemment, elle a commencé à dire de façon publique que Feldman a abusé d'elle, donc elle veut détruire absolument sa réputation. Ça devient très très compliqué. Mais je pense que quand on regarde les documents de l'époque, on a l'impression que c'était une relation consensuelle et que voilà, cette musique n'aurait jamais existé sans cette femme.
Elle dit des choses sur la musique de Feldman. Elle en a dit en tout cas: lorsque j'écoute une œuvre, mon esprit s'évade, comme cela m'arrive toujours avec ta musique. Elle parle à Feldman. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si toi aussi tu t'évades quand tu la composes. Elle s'adresse à Feldman. À votre avis, Ivan, qu'est-ce qu'il a pu lui répondre?
Bon, je devrais le savoir parce que ça a été publié. Ça fait partie d'une conférence que Feldman a donnée aux Pays-Bas en 87. Donc il y a une réponse, mais je pense que qu'est-ce qui aurait été la vraie réponse si Feldman était franc, ce qui n'aurait pas été le cas. Je pense que quand il compose, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il compose au piano, il va essayer une note, il va l'écouter, et puis il va essayer d'autres notes, et il va faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc je pense que quand on est concentré à ce point, effectivement, l'esprit flotte un peu, on s'évade, on se perd. Est-ce que c'est comparable au sentiment que moi je ressens quand je joue cette musique? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a différentes dimensions. Par exemple, c'est comme la différence entre moi qui joue la musique et l'auditeur qui s'évade complètement, mais qui n'a pas besoin de la rigueur de placer les notes, de décider, oui, maintenant cette note-là, je vais la placer un peu plus tard, je lis la partition, etc. Donc, il y a quelque chose il y a une analogie qu'on puisse dessiner, mais. C'est le grand mystère, c'est justement l'un des problèmes avec Feldman, c'est qu'il aimait bien cultiver cette image mystérieuse. Il aimait bien dire, moi je ne sais pas comment je compose ma musique. C'est typique, très paradoxal. Évidemment, tout le monde a envie de savoir comment il a composé sa musique. En tout cas, c'était quelqu'un qui s'isolait et qui était un acharné de travail, même si c'était un bon vivant. Il passait 16 heures par jour à composer, apparemment. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il composait une heure. Et puis après, il copiait, parce que ça, c'était l'un des cadeaux que John Cage lui a fait. Il a dit, si tu veux améliorer ta composition, tu la copies en permanence. Et du coup, quand tu copies, tu recopies, et tu réfléchis à chaque décision que tu as prise auparavant, et tu questionnes cette décision. Et résultat, il copiait ses partitions 5 ou 6 fois. Résultat, ses manuscrits sont magnifiques à regarder. Elles sont très très belles, parce qu'il n'avait plus de doute sur les notes choisies. C'était juste une question de le placer de façon parfaite. Et ça, par contre, c'est très proche de ce qu'on fait quand on joue sa musique. On essaie vraiment chaque note d'avoir une attention, une sensibilité infinie, ce qui est évidemment impossible, mais la démarche est très belle. Et c'est une démarche à laquelle je m'identifie complètement en tant que musicien. Une démarche qui est tendre, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin, non seulement aujourd'hui, dans le sens large aujourd'hui, mais aujourd'hui. Le 14 novembre, on a besoin de tendresse, je pense. Et donc, c'est ça que Veltman nous apporte en musique.
Quand on parle d'évasion, ou qu'on entend Bonita Marcus parler d'évasion, mon esprit s'évade, ça peut avoir un côté un petit peu péjoratif, c'est-à-dire pour le public de ne pas être dans l'œuvre. Mais au fond, est-ce vraiment péjoratif? Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'évader complètement? Pour
C'est-à-dire
n'importe quelle musique, pas
que.
forcément pour celle de Feldman.
Oui, il ne faut pas être démagogue non plus. Oui, c'est pas parce qu'on joue de la musique qu'il faut l'écouter et réfléchir à ce que le compositeur a dit. Ou, on ne peut pas diriger. Ça fait partie de la beauté du concert, c'est que chaque personne est libre d'écouter comme il veut. Et je pense que la plupart de personnes, je pense que je ne suis même pas capable de dire que je suis une exception. Quand on assiste à un concert, notamment un concert long, 90 minutes, forcément on pense à autre chose à un moment donné. C'est normal. Je pense que c'est assez rare que les musiciens puissent nous captiver par la musique en tant que telle et qu'on écoute uniquement la musique et qu'on pense à la musique tout au long d'un concert. Et c'est sans doute pas plus mal parce que si on était obligé que l'esprit de chaque personne dans la salle était obligé de se concentrer précisément sur cette note-là à chaque moment, bah, les concerts seraient vides.
Mais au fond, quel est le rôle de la musique dans nos vies?
Quelle question.
Mais non,
Vous avez
genre,
quelques heures?
mais oui. Mais en parlant d'évasion, de tout ça, voilà, il y a cette question qui me vient et en vous écoutant aussi parler de la tendresse de
Oui,
Feldman
oui.
et de la vôtre.
C'est-à-dire que dans l'art, on cherche ce dont on a besoin dans chaque moment. Donc c'est sûr que Feldman offre quelque chose, il y a autre chose qu'il n'offre pas. Alors c'est sûr que si j'ai décidé de consacrer 3 ans de ma vie en faisant des recherches sur Feldman, en écoutant sa musique, en la jouant le plus largement possible, en enregistrant plusieurs disques, c'est qu'elle m'apporte quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc tendresse, oui, sensibilité, ouverture. Il y a un côté spirituel que j'essaie d'évoquer, même si je le fais avec beaucoup de maladresse, parce que je ne considère pas que la spiritualité fait forcément une grande partie de ma vie. Mais je réalise avec Feldman que si, finalement, que j'en ai besoin, comme tout le monde. Mais sauf que j'ai besoin de l'aborder de ma façon. Alors c'est très drôle parce que j'étais à Paris il y a quelques jours, j'ai donné cette pièce en entier et l'organisatrice de salle qui était là, une jeune fille, on discutait un peu par rapport à la musique en général et puis je lui disais sur cette pièce, oui mais il faut se laisser aller, elle a un côté spirituel et quand j'ai dit le mot spirituel, j'ai vu que ça la crispait Direct. C'est-à-dire que pour elle, l'idée de spiritualité était forcément liée à une religion organisée, était forcément liée à une hiérarchie qu'elle essaie de rejeter. Ce que je comprends, hein, pour plein de raisons. Mais en même temps, à un moment donné, on en a besoin. C'est-à-dire que Feldman, sa mortalité, le deuil qu'il évoque par rapport à sa mère, le fait que lui, quand il a composé, pas cette pièce, mais la pièce suivante, il savait qu'il est en train de mourir d'un cancer. Toutes ces choses sont des questions auxquelles on est confronté en permanence, que ce soit le lendemain d'un attentat ou lorsque nos parents sont malades. Ce sont des choses qui font partie de la vie. Donc je pense qu'il y a certaines pièces, certaines œuvres qui évoquent ça ou qui font allusion de façon beaucoup plus forte et d'autres pas du tout, qui sont basées sur la vivacité, sur la joie. Là, c'est pas le cas. Là, c'est autre chose.
En même temps, les premiers mots que vous avez prononcés pour parler de la musique de Feldman tout à l'heure, c'était transe, c'était méditation, on a parlé de la mort, on a parlé du temps qui s'étire. Peut-être que tous ces points-là convergent vers la spiritualité ou vers une forme de spiritualité qu'on aurait peut-être du mal à définir, mais...
Oui, c'est-à-dire que chacun trouve l'accès à la spiritualité comme il peut, quoi. Parce que c'est-à-dire que il y a tellement de connotations quand on parle de spiritualité, et je pense que c'est contre cela que la fille a eu une réaction assez forte. Que selon l'éducation de chacun, bon, ici on est dans un pays catholique, par exemple, moi j'ai grandi aux États-Unis, et j'ai grandi un peu en Serbie aussi, où c'était pas du tout le cas, donc les mœurs sont totalement différentes. Et quand on parle de spiritualité, ça a des connotations très différentes et très fortes pour la plupart des personnes. Après, tout ce que je peux dire, et je pense que c'est une bonne chose de ne pas toujours comprendre le pourquoi on fait les choses, ça c'est un des grands cadeaux qu'un ami Benoît Maire m'a fait, un artiste plastique, qui a fait la photo de la couverture de ce nouveau disque et avec lequel je collabore depuis quelques années maintenant. C'est qu'il m'a avoué à plusieurs reprises que lui ne comprend pas tout de ce qu'il fait. Et qu'il accepte cette incompréhension. Et je pense que moi, je ressens de façon viscérale le besoin de cette musique en ce moment. J'ignore pourquoi, j'essaie de mettre en mots quand je suis obligé de le faire, mais j'ignore la plus grosse part sans doute.
Ça fait 3 ans donc que vous travaillez sur Feldman, même plus que ça, que vous avez sa musique en tête. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé au bout?
Alors, je pensais être arrivé au bout justement jusqu'il y a pas longtemps, jusqu'à mercredi.
Ah.
Et quand j'ai donné cette pièce mercredi à Paris, j'ai ressenti quelque chose de très violent, qu'il y avait encore de la marge, il y avait encore un palier ou plusieurs paliers à atteindre au niveau justement d'un côté puissance spirituelle dans l'interprétation de la pièce.
Mais pourquoi violent?
Ben, violent pour moi parce que j'étais très étonné en fait, et ça m'est arrivé en jouant la pièce, donc c'était pas le moment idéal. Mais au moment, c'était le moment où je prenais le plus de risques. Où j'écoutais la salle, où il y avait plus d'une centaine de personnes qui écoutaient avec une attention, une puissance très viscérale, encore une fois. Et ça m'a surpris qu'il y avait encore des choses à creuser, en fait, parce que je pensais avoir fait le tour. Et souvent, avec la musique, nous les musiciens, on a l'impression, on va jusqu'au bout de la chose, et puis on laisse tomber le morceau pendant quelques années, et puis on revient dessus avec une autre maturité, et c'est là où on peut creuser plus loin. Mais le fait d'arriver comme ça directement, il y avait une espèce d'étincelle quoi, qui m'a surpris. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a autre chose. Donc là, c'est violent aussi puisque ça me fait poser beaucoup de questions. Je pensais effectivement, j'avais déjà d'autres projets qui sont en cours, d'autres compositeurs qui m'intéressent. Et là, ça m'interpelle vraiment. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il y a une grande décision à prendre, quoi.
Est-ce que vous voulez bien jouer à nouveau quand même?
Ou quand même, je vais essayer. Allez.
On va vous écouter dans... C'est la dernière partie de Fort Bonita Marcus que vous retrouvez au disque, évidemment, ce nouveau disque d'Ivan Illich. On vous écoute. Thank you. Merci beaucoup, Ivan. Merci de nous avoir fait découvrir cette musique. Merci de nous faire découvrir des musiques. Voilà, c'était un bonheur. Merci à tous d'être venus. Bravo, Ivan.